franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, comment classifier les aurores boréales avec Fabrice Mottez.
Il y a eu pas mal de tentatives. Dans les années 30, on a fait une classification extrêmement détaillée des aurores que je n'ai jamais vue servir à rien parce qu'elle était fondée juste sur leur aspect visuel et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe autour. Et ça, on a pu le faire depuis l'ère spatiale. Alors actuellement, il y a une classification où on pourrait mettre quatre catégories principales qui sont les arcs auroraux. C'est ces arcs très spectaculaires pour lesquels on éventuellement on va voyager, on va faire un voyage touristique pour les admirer.
Très brillante, c'est ça?
Très brillante, faisant des dessins dans le ciel. Voilà. Il y a les aurores diffuses qui sont moins intenses, qui sont beaucoup plus étendues, en fait, qui sont pas tellement remarquables, mais qui, sur le plan des processus énergétiques en jeu, sont en fait aussi importantes que les arcs auroraux. Et puis, il y a des aurores un petit peu spéciales. Par exemple, il y en a qui s'allument et qui s'éteignent. Enfin, disons qui ont des variations quasiment périodiques de leur luminosité, qu'on appelle
des pulsantes.
Ouais. On a même des clignotantes. Mais alors, celles-là, on les voit, elles clignotent vite, mais on ne le perçoit pas facilement à l'œil. C'est pas le vert qui clignote. Et puis, il y a les aurores noires, qui sont en fait des chemins où il n'y a absolument pas d'aurore, au milieu d'aurores diffuses ou même entre des arcs auroraux, et qui sont également très intéressantes. C'est des aurores par absence d'aurore, en fait.
Alors là, il y a une photo magnifique dans votre livre, justement. Vous nous décrivez un petit peu, c'est un vortex, c'est ça, qui a été pris en photo.
Oui.
En Norvège, dans un fjord norvégien.
Quand on va observer les aurores, il y a une phase où on voit des aurores calmes, qui peut durer très longtemps. Donc on voit qu'il y a des aurores calmes, on sait que ça vaudra le coup d'observer la nuit. Maintenant, à un moment, on s'ennuie à les voir parce qu'elles ne bougent pas tellement, elles se déplacent lentement vers le sud quand on est au nord, et c'est tout. Et puis, il y a un moment, il se passe quelque chose dans l'espace, et les aurores s'agitent, prennent des formes beaucoup plus compliquées, deviennent beaucoup plus lumineuses. Alors, c'est ce qu'on appelle en physique aurorale la phase de déclenchement et la phase d'expansion. Et c'est là qu'on voit la danse incroyable avec des phénomènes qui, parfois, en quelques secondes, des augmentations de luminosité qui traversent un arc. Enfin, dit comme ça, c'est pas génial, mais à voir, c'est absolument fantastique. Et cette phase d'expansion peut durer typiquement une demi-heure. Après, il y a une phase de recouvrement où les choses reviennent un petit peu au calme. C'est le moment où on voit apparaître les aurores pulsantes, les choses comme ça.
Mardi, les microbes amis ou ennemis avec Marc-André Sellos.
Alors, nul ne songe à nier la maladie. Ça, c'est évident. Et on a fait des grands progrès, justement, en éliminant les microbes de la proximité de l'homme. Mais on se rend compte maintenant qu'à force d'avoir poussé l'hygiène trop loin, on commence à avoir des problèmes d'aliments, par exemple, qui sont complètement stériles, mais qui se contaminent facilement, éventuellement par des pathogènes. Alors que c'était pas le cas quand ils étaient occupés par une flore bénigne. On commence à avoir des problèmes de maladies, alors même que les maladies propagées par les microbes régressent dans nos civilisations, des maladies comme l'allergie, les maladies auto-immunes qui se développent simplement parce que notre système immunitaire, son fonctionnement est co-construit avec les microbes. Si vous avez trop peu de microbes dans votre environnement quand votre système immunitaire se développe, eh bien, votre système immunitaire commence à fonctionner mal. Donc, nul ne nie la maladie, et les microbes peuvent être pathogènes, dangereux, tueurs. Mais, je ne mourrai qu'une fois. Je ne serai décomposé par des microbes qu'une fois. Tous les jours quand je me lève, si je me lève, tous ces jours-là, ils sont construits par des microbes qui, pour le coup, sont des copains, parce que sinon, il n'y aurait pas ces jours-là.
C'est ça, oui. Ah, donc, il y a la maladie, il y a le pourrissement, hein, qui sont le signe des interactions négatives, on peut dire, hein, des microbes, mais il y a aussi tous les autres aspects qui sont absolument nécessaires à la vie. Donc, au fond, on peut dire que c'est quasiment aussi cette alternance qui est indispensable. L'un ne fonctionne pas sans l'autre.
Alors, je parlais tout à l'heure de la respiration. Tiens, on peut tout de suite mettre une identité là-dessus. On sait que les parties de nos cellules qui font la respiration et qu'on appelle les mitochondries, ce sont en fait des microbes qui sont dans les cellules depuis des lustres, qui se transmettent de génération en génération par la cellule maternelle, l'ovule dont nous sommes tous issus. On respire pas et on peut pas vivre sans ces bactéries qui sont tapies au fond de nos cellules et qui font la respiration pour nous. Mais elles non plus. Il y a longtemps que ces bactéries-là n'existent plus dans le milieu. Un ancêtre très lointain qui est commun à nous et aux champignons et à plein d'animaux a acquis ces bactéries et elles sont devenues complètement dépendantes à cette vie dans nos cellules. C'est une dépendance réciproque.
Mercredi, quelles sont les caractéristiques des adultes surdoués ? Avec Gabriel Val.
Eh bien, pour autant que l'on précise que ce sont des caractéristiques qui sont inconstantes, donc qui ne désignent pas nécessairement le surdon et qui, si elles sont présentes, elles ne signent pas le surdon, et si elles sont absentes, elles n'excluent pas le surdon. Par exemple, la curiosité intellectuelle, le goût de la réussite, le goût de l'accomplissement, là, ce que l'on appelle le plaisir eudémonique, c'est-à-dire le donner du sens à sa vie, donner du projet à son existence. C'est aussi peut-être une certaine sensibilité interpersonnelle. C'est aussi le goût d'apprendre, le goût de découvrir. Voilà, un certain nombre de caractéristiques qui sont, mais il y en a beaucoup d'autres, qui sont encore une fois inconstantes, mais qui, c'est vrai, dessinent un peu le profil, on va dire, type de la personnalité des adultes surdoués.
Ça, ce sont d'ailleurs des caractéristiques qu'on retrouve dans les tests qui sont établis, parce que je vois que vous en proposez un, un test d'adulte d'identification du haut potentiel intellectuel et cognitif. Alors évidemment, il y a 20 propositions, 20 questions. C'est amusant de le faire pour le tester. Il faudrait aller plus loin, évidemment, pour avoir une vraie conclusion. Mais précisément, ça reprend ce que vous nous dites là.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on pourrait appeler une pré-identification. C'est-à-dire, on peut, sur la base d'une réponse positive à ce questionnaire, c'est un questionnaire que j'ai établi avec des surdoués. D'ailleurs, colligé dans toute la littérature sur le sujet tous les items, toutes les petites choses qui se trouvaient, etc. Je leur ai donné, puis je leur ai dit, donnez-moi les 20 les plus caractéristiques.
Donc vous avez fait bosser les surdoués, c'est bien,
absolument.
Bravo.
Écoutez, en principe, ils ne détestent pas travailler dans ce domaine. Et donc, j'ai en effet une liste de 20 questions qui, si on répond oui, peuvent inciter à penser qu'on est surdoué. Mais seule la vérification par des tests qui ont une validité scientifique bien supérieure à ce que l'approche interpersonnelle autorise permettront de confirmer cette pré-identification.
Oui, donc on parle de la grande curiosité intellectuelle, c'est la toute première question. Et puis, il y a des questions autour de la créativité, justement, ça, qui sont présentes. Et puis, dernière question, vous reprochez-vous souvent trop d'intensité dans vos émotions ou vos sensations? Voilà, donc capacité intellectuelle, créativité, émotivité, ça voilà.
Eh bien, pour l'émotivité, avec des nuances, on peut le retenir en tout cas comme un argument.
Jeudi, comment fonctionne notre système endocrinien et comment peut-il être perturbé? Avec Caroline Hasselmann, pédiatre endocrinologue.
Donc le système endocrinien, c'est toutes les hormones dans notre corps. Alors les hormones, ce sont des substances informatives qui sont sécrétées par des tout petits organes qu'on appelle les glandes et qui fabriquent des substances qui vont être sécrétées dans le sang. Ces substances vont aller se fixer sur ce qu'on appelle des récepteurs, qui sont des petits éléments à la surface de certaines cellules, qui sont spécifiques en général à la fois d'organes et à la fois des hormones en question. Les hormones, on les appelle à ce moment-là des ligands sur les récepteurs. Une fois que l'hormone est fixée sur le récepteur, il y a en aval du récepteur une cascade d'informations qui se met en place pour arriver au final à l'effet demandé à cette hormone.
Donc ça, c'est quand tout va bien.
Quand tout va bien.
C'est le mécanisme normal.
Exactement. Et alors, ces hormones régulent énormément de choses dans le corps humain.
Par exemple,
température, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le taux de sucre, le métabolisme des lipides, la sexualité, la libido, par exemple, la puberté, la croissance, énormément, énormément de choses. Ça, ce sont les substances endogènes, c'est-à-dire qu'on fabrique nous-mêmes. Mais on est entouré en permanence et pollué, entre guillemets, par des substances exogènes, donc qui viennent de l'extérieur, ces perturbateurs endocriniens, qui vont avoir des relations étroites avec les récepteurs des hormones naturelles. Ces substances, c'est des substances synthétiques, mais également naturelles. Il ne faut pas mettre tout sur le dos forcément du synthétique. Des substances naturelles...
Qu'on a comme perturbateurs endocriniens naturels, par exemple?
Par exemple, et beaucoup de gens ne le savent pas, dans certaines huiles essentielles, et en particulier l'huile essentielle de lavande et d'arbre à thé, le titri, qui est pas mal utilisé, ce sont des perturbateurs endocriniens.
Donc il faut faire très attention sur l'utilisation de ces produits.
Il faut éviter d'imprégner quotidiennement les cheveux des enfants d'huile essentielle de lavande pour prévenir les poux. C'est pas forcément une bonne idée.
Le soja aussi contient des œstrogènes naturels, et c'est pour cette raison qu'on considère qu'il n'est pas du tout recommandé de nourrir son enfant avec du lait de soja.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.